Chalie m'était conté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Luc et bonjour André.
Bonjour Jean-Marc.
Ce sont mes fidèles compagnons depuis de nombreux mois qui m'aident bien, je dirais qui m'assistent au sens propre du terme dans ce plaisir qu'on a quand même d'évoquer l'histoire de l'abbé Chalie. Alors pour ceux qui auraient manqué le dernier épisode, je vous rappelle que nous étions dans la lecture d'une lettre tout à fait particulière parce que on a eu la chance de trouver ce témoignage absolument exceptionnel. Il s'agit d'une lettre de Jean de Montreuil, qui est on dirait de nos jours, un intellectuel. Et Jean de Montreuil, il s'appelle de Montreuil parce qu'il vient de Montreuil-sur-Mer, bien connu pour les touristes qui vont vers le Grand Nord des Hauts-de-France, si j'ose dire. Et Jean de Montreuil est un latiniste. C'est-à-dire qu'il veut faire perdurer la qualité de la langue latine. Et on est là devant un vrai choix. À une période, alors pour vous donner quand même une date, Jean de Montreuil va être assassiné en 1418, vous voyez. Et les premières expériences de littérature en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue populaire, vont intervenir un peu plus tard, c'est le début du XVIe siècle. Donc on va voir s'opposer en quelque sorte dans le monde intellectuel ceux qui sont partie prenante pour le latin et ceux qui veulent au contraire promouvoir la langue populaire. Donc pour nous, bien sûr, la langue française. Et on est bien placé, évidemment, dans notre région avec l'édit de Villers-Cotterêts qui va imposer la langue française dans les actes officiels. Cela dit, c'est pas un acte qui est tout à fait récent. Il y avait auparavant déjà un certain nombre d'édits qui préparaient évidemment ce qu'on présente maintenant comme une révolution linguistique. Alors, Jean de Montreuil, le fait qu'il parle le latin m'oblige à dire aussi qu'on est là devant un Européen. Parce que l'Europe existe déjà à cette époque. On le verra au moment où on parlera du règne de François Ier. Et la langue commune, c'était le latin. Un moine anglais qui pouvait très bien descendre se perfectionner, n'est-ce pas, à Naples ou bien à Salzbourg. Et il se comprenait parfaitement avec les autres moines du monastère qu'il allait rencontrer, puisqu'il parlait le latin, que les textes étaient en latin. Et donc, on a déjà une Europe, en tous les cas, de fait, qui s'est créée grâce à cette langue, héritée, bien sûr, de l'Antiquité romaine pour nous, en tous les cas. Et la volonté de Jean de Montreuil et d'autres poètes ou intellectuels de l'époque va aussi dans ce sens d'une langue latine épurée et propre à servir de véhicule, on l'appelle aussi une langue véhiculaire pour parler de notre langue habituelle, de véhicule donc pour les échanges entre les théologiens, entre les poètes, entre les intellectuels, je reprends le terme beaucoup plus récent, pour qualifier l'entourage de Jean de Montreuil. Alors Jean de Montreuil est venu à Chalie, du moins on peut le croire quand même, et a fait une longue lettre qu'il adresse à un de ses collègues, on dirait, Nicolas de Clamange, et il nous décrit avec force détail donc l'abbaye de Chalie. Alors ce sont des pages et des pages qu'il nous a fallu traduire, bien sûr, pour pouvoir le présenter à chacun. Et lors de la dernière émission, donc, nous en avons lu une grande partie. Mais le temps, Chronos, qui mange ses enfants, le temps nous a assaillis et nous avons dû nous interrompre avant de terminer cette lecture. Alors, l'endroit où nous étions était assez intéressant. C'est un moment descriptif. On nous dit que tout va bien à Chalie. Bien sûr, c'est merveilleux, Chalie. Dans le réfectoire, c'est formidable. Quoique, quand même, il y a une limite, parce que le réfectoire est tellement grand que lorsque la nourriture arrive tout au bout du réfectoire, elle est froide. Et c'est pour ça qu'on dit à l'époque, les moines de Chalie n'ont pas de problème avec leurs dents, parce qu'il n'y a pas de chaud et froid à craindre. La nourriture est toujours froide. Et puis après, et c'est là où nous allons reprendre notre lecture, eh bien, Jean de Montreuil va devenir un peu un poète. Il va nous emmener, il va nous parler des petits oiseaux. Il n'est pas le seul à penser à François d'Assise, bien sûr, mais il va nous faire une petite séquence aviaire, si j'ose dire, de Chaly. Et il va nous parler d'un Watelet qui a une attitude tout à fait étonnante dans cet habit. Ce que je veux dire aussi, avant de reprendre la lecture, c'est que cette description a eu beaucoup de succès. Et on va la retrouver au 19e, au 20e, reprise par des poètes. Je pense par exemple à un poète qui s'appelle Émile Vita et qui va reprendre ce thème du Watelet pour écrire un poème sur l'abbaye de Chaly, par exemple, pour rester évidemment sur nos terres en quelque sorte. Alors voilà ce qu'il nous dit à propos du réfectoire, parce qu'il y a toujours évidemment dans le réfectoire des miettes qui tombent par terre. Voilà, il nous dit, qui plus est, on voit constamment dans le réfectoire des passereaux et d'autres petits oiseaux, dès que le déjeuner est servi, alors qu'ils ne sont pas invités, on les voit prendre leur nourriture en même temps que les religieux, sur la même table, dans le même plat, et se restaurer avec tellement d'audace et d'autorité qu'on ne saurait pas si le fondateur du monastère, qui fut le très valeureux roi de France, souvenez-vous, hein, Louis VI le Gros, en a assuré la subsistance pour les oiseaux, ou pour les moines. Bien plus, il y a un roitelet, un oiseau si petit qu'une fois plumé, il ne sera pas plus gros que le petit doigt, qui a l'œil sur le cloître et le parcourt tout autant que les moines. Je me délecte à le voir. Je le vois souvent précéder chacun d'entre nous avec de brefs vols saccadés, à la manière d'un écuyer. Je me régale à le voir entrer le premier dans l'église en venant des cloîtres et en faisant d'abord le tour comme s'il faisait la quête. Il revient aussitôt vers une chaire assez haute sur laquelle, une fois perché, se prenant pour l'abbé ou prieur, avec des mouvements précipités et des gestes de parade, sa toute petite queue levée à la manière d'un étendard, il s'efforce de commencer l'introïte. L'introïte, eh bien, c'est le début de la messe, hein, oui. C'est ce que l'on chante au moment où on pénètre dans l'église. Il chuchote comme s'il disait « Oh, je me souviens de l'air, mais si je tenais les paroles. » Ensuite, l'adieu étant fait, un autre moment évidemment de la liturgie, appelé à d'autres occupations, il s'envole vite et s'enfuit. Mais il revient souvent. Il accomplit un simulacre de culte autour de l'autel principal avec un signe de tête, un battement d'ailes et beaucoup de gazouillis. Et parfois, alors que le prêtre lit pendant la messe les paroles de la secrète, il se perche sur sa tête et sur son épaule et le bec tourné vers son oreille. Il se recommande de toutes ses forces au roi des rois, lui et ses royaumes, pour qu'il ait pitié d'eux, c'est du moins ce que l'on peut supposer de leur tête à tête. Et à la vérité, ce qui me stupéfait au plus haut point, c'est que la femelle de ce petit roitelet dépose en une seule ponte 16 œufs et plus, chacun des œufs étant à peine plus petit, dit-on, que le serait le roi ou la reine avec sa taille adulte. Et il poursuit à propos des oiseaux. Mais non, je laisse André poursuivre cette lecture.
Mais il vaut la peine de voir les merles et la plupart des autres oiseaux, par le gel qu'il fait et la tempête de neige, se presser vers les cellules des moines, poussés par le désespoir né de la faim. Quelle pitié! Or, il n'est personne qui ne préfère au printemps leur chant délicat au son de la flûte ou de la sitar. Rien d'étonnant. Évidemment, ceci est artificiel. Cela est naturel. Cette mélodie est celle de deux instruments, celle-là de 100 000 voix. Il faut que tu connaisses la raison d'une telle multitude. Il n'y a pas autour de l'abbaye de confins dépourvus de forêts, de bois, de buissons ou d'arbustes sur une étendue de 2 ou 3 000, même sur le côté le plus court. Il en résulte que par temps calme, on ne trouverait pas un arbre sans une branche qui ne fasse entendre la musique des oiseaux.
Voilà. Alors, nous allons quitter le monde des airs. Hein, c'est un monde, évidemment, qui est très apprécié au Moyen-Âge. Je vous signale que, pour revenir à des choses très terre-à-terre, si j'ose dire, dans la gastronomie, il y avait comme ça une échelle. Hein. Ce qui poussait dans la terre était beaucoup plus vil. Ce qui allait sur la terre, ma foi, avait un certain intérêt. Mais ce que l'on pouvait prélever dans les airs, c'est-à-dire les oiseaux, hein, était évidemment de la meilleure des qualités pour la gastronomie, entre autres. Alors, notre lecteur poursuit et dit « Je faisais l'effort de mettre une fois pour toutes un terme à ces futilités. » Et voilà que l'âne du jardinier eut l'air de me dire en poussant un braiement « Mon cher prévôt de Lille, tu as lu récemment dans la cité de Saint-Augustin qu'à Pulé, un homme si éminent, avait échangé en âne. Et ce qui est tout à fait semblable à ce fait prodigieux, un bruit avait couru qu'en Italie, à l'époque de ce même Augustin, il y avait des femmes aubergistes qui changeaient les hommes en bêtes de somme pour un bol de fromage. Ils rapportaient ainsi le bois des forêts, transportaient sur leur dos les céréales jusqu'au moulin. Et toi, tu omettras de parler de moi. Tu oublieras de dire quelque chose à mon sujet, alors qu'il y a tant à dire, toi qui ignore, ou plutôt qui n'ignore pas, qu'un de mes frères Anne a été tellement dévoué à Jérôme et à sa congrégation, que ce dernier a plus estimé notre espèce, que ce fameux savant schismatique que dans une lettre il appelle Anne bipède. Alors, je suis bien conscient que ce paragraphe est un peu complexe. Mmh. Alors, qu'est-ce que vient faire cet âne ? Eh bien, tout simplement, l'âne, c'est la reconnaissance de l'animal hein, qui effectivement rend des services tout à fait extraordinaires dans une abbaye. Mais c'est aussi, bien sûr, une référence culturelle. Et là, notre prévôt de Lille, puisque l'âne lui dit que l'apostrophe ainsi, il dit « mon cher prévôt de Lille hein, », il parle de Jean Montré, et il parle d'Apulée. Alors, Apulée, c'est un écrivain de l'Antiquité, qui a écrit un texte fameux qui s'appelle l'Âne d'or, qui sera maintes fois repris, dont le thème sera maintes fois repris. Alors l'Âne d'or, en deux secondes, mais l'ouvrage est fort long, eh bien c'est l'histoire d'un homme qui, à la suite du maladresse de son épouse, va être transformé en âne. Et évidemment, il va faire tout pour retrouver l'apparence d'un homme. Et entre autres, il doit manger des roses. Bon, pour un âne, ma foi, que ça manque pas de piquant, ça ne me semble pas trop gênant, mais il va quand même, malgré tout, demeurer à l'état animal. Et pour pouvoir retrouver l'état humain, eh bien, il faudra que son épouse accomplisse un certain nombre de travaux, d'épreuves. Hein, ça ressemble un peu aux travaux d'Hercule, hein, sur le plan masculin. Et c'est un récit qui va se faire en déambulant, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avance vers la fin du roman, et hop, intervient une nouvelle histoire. Hein, c'est une histoire dans l'histoire qui va petit à petit se rajouter à l'ensemble du texte. Et peut-être que, justement, une de ces histoires la plus connue, c'est Psyché et Cupidon. Hein, c'est la rencontre des amours de Psyché, l'âme et Cupidon, l'amour. L'âme et l'amour, alors, vous savez que Psyché... la vilaine avait l'interdiction de voir Cupidon. Elle a failli. Hein, on la voit souvent représentée. Elle s'avance tout doucement dans la chambre de Cupidon pour savoir à quoi il ressemble. Ah, c'est la catastrophe, etc. Et donc, elle aussi va advenir des épreuves qu'il lui faudra accomplir pour que cet amour de l'âme... avec cette alliance entre l'âme et l'amour puisse se réaliser. Donc, ce sont là des citations. Au passage, vous voyez, on est quand même chez des moines cisterciens, mais qui n'hésitent pas, évidemment, d'avoir recours à la mythologie grecque. Hein, Et ce recours est assez permanent dans la littérature de cette période. Je termine un peu cette lettre. Par conséquent, il te reste, mon maître, à m'apprendre, puisque tu sais ce que je ne sais pas, à dire du bien de cet animal plus violent par ses cris qu'il a de longues oreilles, sans quoi sire l'âne lui-même, qui plus que les autres ânes sait faire l'âne, menace de me perturber et de me déranger continuellement avec ses hurlements grossiers, harcèlement qu'on ne peut tolérer.
Et pour en revenir au début de ma lettre, il ne faut en effet pas badiner davantage. Je te le disais en commençant que ce monastère était investi par le plus grand nombre possible de lieux saints. Pour que tout le monde le sache, dans un rayon de 10 lieues à la ronde, comme on dit habituellement, si on calculait bien, on trouverait 30 monastères et plus dont je ne parlerai pas. Il est le seul, tu le sais autant que ceux qui y vivent, qui a dans sa fondation plus de 30 000 francs hors de revenus annuels pour manifester aux yeux de tous la foi et la piété des Gaulois. Je laisse donc à d'autres le soin de recenser tous les autres lieux sacrés d'un si grand royaume en comparaison de cette toute petite partie.
Et pour en terminer, la lettre Le dernier chapitre de la lettre dit ceci. Bien des gens savent, mais moi, j'écris avec certitude que parmi les 100 villes du royaume de France, 3 villes, même sans compter Paris, comptent 22 églises très renommées, sièges de chapitres réguliers, séculiers, où l'on mange le pain du crucifié, sans compter les paroisses des villes en question au nombre presque égal, etc., etc. Quiconque voudrait s'en donner la peine pourrait le vérifier aisément. Et il termine, pour ne pas que ma lettre ne devienne un livre, ce qu'interdit Saint Jérôme, adieu, et endure sereinement cet écrit plus long qu'il n'avait été annoncé. Et c'est ainsi que se termina la lecture de l'aide de Jean de Montreuil. Eh bien, maintenant, nous allons faire un saut d'un siècle, ou presque. Nous allons retrouver Chaly à une période tout à fait étonnante, au début donc, du XVIe siècle, c'est-à-dire à la Renaissance. Alors, il n'y a pas une date précise à laquelle commence la Renaissance.
Hein. Oui, on quitte le Moyen-Âge, quoi.
Voilà, disons que traditionnellement, on prend la date de 1492.
Oui.
La découverte de l'Amérique, entre guillemets, par Christophe Colomb. Mmh. Pourquoi pas ? Il faut bien trouver des dates. Mmh. On aurait pu prendre la chute de Grenade, qui est reprise donc aux musulmans. Bon, peu importe. Disons que, selon les pays, bien sûr, la Renaissance en Italie ou dans les Flandres va commencer peut-être avant même la Renaissance française, etc. Il ne faut pas être accroché à la chronologie. Ça serait, je crois, avoir une vision mathématique de l'histoire qui serait réductrice, hein, en quelque sorte. Mmh.
L'Espagne, c'est la reconquête, quoi, à peu près.
Oui, je pense que ça correspond à ça, tout à fait.
Oui.
Ouais, ouais. Alors donc, cette renaissance, elle va impliquer des profonds bouleversements dans la vie du monastère. Jusqu'à présent, vous vous souvenez, on a donc à la tête du monastère un abbé, un abat, le père, en quelque sorte, qui est souvent secondé par un prieur. Disons que c'est souvent le prieur qui fait le travail, et l'abbé n'est pas souvent présent, parce qu'il partage son temps entre le chapitre général, où il se rend assez souvent, entre les d'autres abbayes cisterciennes à qui il rend visite ou qu'il doit contrôler, et puis il se rend bien sûr à Paris, car la plupart de ces abbés étaient des maîtres en théologie, et entre autres au collège Saint-Bernard, mais pas seulement, avaient des cours à assumer. Puis, quand il rentrait à Chaly, eh bien, il continuait à travailler, à écrire, à lire. Et l'activité intellectuelle de Chaly ne s'est pas interrompue, je dirais, malgré la guerre de Cent Ans.
Oui. Hein, malgré. Ils avaient aussi un rôle diplomatique, même, parfois.
Mais bien sûr. Bien
c'était
sûr.
Pas simplement des...
Oui, parce qu'on est vraiment dans un triumvirat assez, assez difficile à gérer entre le roi, oui, le pape et l'empereur.
C'est ça. Hein, voilà.
Alors parfois il joue, il s'appuie sur l'empereur pour essayer de faire céder le pape, parfois sur le roi. Enfin, oui. Bref, c'est un travail que beaucoup de diplomates connaissent encore.
Et en même temps, il faisait des affaires aussi pour les différents lieux.
Mais bien sûr, mais bien sûr, il faut que ça tourne.
Il faut que ça tourne. Hein,
rappelez-vous donc ce domaine de Chaly avec toutes ces granges aux productions extrêmement variées dont il faut vendre les produits dans les centres urbains. Donc on a des hôtels, les caves de ces hôtels sont... des réserves qui vont être par la suite écoulées sur le marché urbain, etc. etc. Donc une activité agricole intense, même, je dirais même économique, parce qu'il n'y a pas que les produits agricoles.
Oui.
On fabrique aussi, hein, souvenez-vous, tous les moulins qu'il y avait à Chaly, dont chacun était destiné à une mouture particulière ou à un travail particulier. Mais il y a aussi, bien sûr, ce qui perdure, l'activité intellectuelle. Alors, 1515, je pense que dans la tête des auditeurs...
Peut-être voyons. Marignan, non peut-être.
Marignan,
ah,
voilà.
Oui, il me semblait aussi.
1515, c'est pas un numéro de téléphone. Donc 1515, évidemment, tous les élèves de notre âge, mon cher André.
Oui. C'est peut-être la seule date que j'ai réussi à retenir.
Ils l'ont appris et l'ont révisé pour le moins. C'est Marignan. Alors on reviendra un petit peu sur la bataille de Marignan, mais si je choisis 1515, ce n'est pas pour Marignan tout de suite. C'est tout simplement que c'est la première année du règne de François Ier. Oui. François Ier, donc, qui n'était pas destiné au départ à devenir roi de France. Il n'est pas lieu ici de trop disserter sur la façon dont il va accéder au trône. Mais sachez qu'il était duc de Valois, donc, et le Valois étant un apanage, ça veut dire que, puisque c'est un apanage, il ne peut pas hériter de la couronne. Donc vous voyez qu'au départ, il n'était pas destiné à devenir le roi de France. Bien, il n'est pas lieu aujourd'hui d'évoquer toutes les difficultés que sa mère va rencontrer pour le hisser sur le trône, mais en tous les cas, elle y a brillamment réussi. Et François Ier, donc, va accéder au trône en 1515. Et tout de suite, on va le voir se précipiter comme ses ancêtres vers le sud, vers l'Italie, poursuivre les guerres d'Italie qui avaient déjà mis en scène par son prédécesseur Louis XII. Et il va réclamer tout simplement en Italie le duché de Milan. Le duché de Milan qui, dit-il, appartient à son épouse. Vous la connaissez, son épouse, tout le monde la connaît, c'est la reine Claude. Bien sûr, c'est la même chose. Hein. C'est la reine Claude de France, mais qui est la fille d'Anne de Bretagne. Mmh. Hein. Et donc la reine de France, la reine Claude, a hérité de sa grand-mère Visconti, a normalement hérité avec sa sœur Renée de France, ils ont hérité les deux filles du duché de Milan. Autrement dit, quand il descend vers l'Italie, François Ier se dit le héros, en quelque sorte, de ses deux sœurs, et il veut à tout prix récupérer, n'est-ce pas, le duché de Milan occupé par le méchant Sforza. Ouais. On voit ça d'ailleurs quand il descend vers le sud, évidemment les grandes villes l'accueillent à bras ouverts, alors on fait des décors tout à fait énormes à l'entrée de ville, hein, il y a une scénographie, une mise en scène pour l'entrée du roi, et entre autres il y en a une à Lyon où on voit très bien le roi de France avec d'un côté les pommes d'or du jardin des Hespérides qui constituent la richesse, puis de l'autre côté il y a un ours enchaîné tout en bas, c'est le méchant Sforza qui possède encore le Milanais. Alors, la guerre va être relativement rapide, puisqu'on va voir s'opposer les armées du roi de France et les gardes suisses. Alors, bon, il ne faut pas s'imaginer qu'on est en 14-18. Hein. Ce sont vraiment des guerres où on essaye de se faire peur, en quelque sorte. Certes, il y a quelques décès, mais ce ne sont pas véritablement des massacres tels qu'on les connaîtra tout au long du XXe siècle. En tous les cas, les gardes suisses sont défaits et à ce moment-là s'ouvrent les portes du Milanais. Et puis le méchant Sforza, n'est-ce pas, va se retrouver en prison en France. Hein. Bon, enfin, en prison, oui, c'est vrai, il est dans une geôle, mais à l'autre côté, il vit assez largement à la cour, sans avoir les fers aux pieds en permanence, loin s'en faut. Donc, voilà François Ier en Italie, le terme Italie, bien sûr, il n'est pas propre, puisque l'Italie...
Il est tout à fait divisé encore.
Voilà, il n'existe pas tout à fait, ouais. Donc, ce sont des additions d'États, parfois alliés, parfois pas, c'est-à-dire ils se font la guerre entre eux. Et puis au milieu, c'est qu'à de le dire, puisque c'est Rome, presque au milieu d'Italie, il y a les États pontificaux, avec un pape dont il faut imaginer qu'il est à la fois un chef spirituel, chef de l'Église, hein, bon... mais aussi un chef temporel, c'est-à-dire il possède des terres, et ses prédécesseurs n'hésiteront pas à monter à cheval et à porter le fer, en quelque sorte, avec leur armée, pour défendre leur territoire. Donc, le voilà à Milan. Milan devient une ville française. Et puis, il en profite, n'est-ce pas? Il n'y avait pas le TGV à l'époque. Il en profite pour rencontrer le pape.
Oui.
Et cette rencontre va se faire à Bologne. Donc, on est dans le nord de l'Italie. La ville de Bologne, grande ville universitaire d'ailleurs. Et là, le roi de France et le pape se rencontrent. On est en 1516. Et après quelques... tergiversation, je vais dire, mais tout avait été préparé auparavant, on ne peut pas se faire d'illusions, comme maintenant, hein, il y a toujours des conseillers déjà qui ont bien élagué les difficultés. Et donc, un accord extrêmement important va être signé entre François Ier et le pape. Et un accord entre un roi et un pape, ça porte un nom, ça s'appelle un concordat. Mmh. Et le concordat de Bologne, tout simplement parce qu'on a Bologne, va être signé donc en 1516. Et à partir de là, eh bien, l'Église gallicane, l'Église française, va connaître un bouleversement profond. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'à la suite de cet accord, c'est le roi de France qui va pouvoir nommer tous les grands titres ecclésiastiques.
Les évêques, les archevêques, tout ça.
Absolument. Ouais. Et les abbés.
Les abbés aussi.
Et les abbés. Alors, un historien un peu pointilleux dirait, c'est pas vrai partout, la Provence, elle n'est pas comprise dans... Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, on ne va pas rentrer, nous, dans tous ces détails. Mais disons que pour l'ensemble du royaume, on peut dire que c'est le roi de France qui nomme les abbés. Alors, nous, ça nous intéresse à Chaly, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le prochain abbé de Chaly sera nommé par le roi. Alors, vous allez me dire, le pape là-dedans, ah ben il n'est pas oublié. Pour vous dire que les choses ne sont pas toujours évidentes, il faudra quand même avoir l'accord du pape. C'est-à-dire que le roi va désigner un évêque, mais ensuite, pour avoir l'imprimatur papal, en quelque sorte, le sceau du pape pour justifier effectivement de ce titre. Mais en contrepartie, le pape, à chaque fois, reçoit une somme d'argent tout à fait coquette.
D'accord. Oui.
On a peut-être l'occasion de voir en détail, évidemment, cette tractation. Hein. Alors, bien sûr, on ne va pas tuer l'abbé. Hein. À partir de 1516, on va attendre que l'abbé en place disparaisse pour que le roi de France puisse nommer de nouveaux abbés.